DJ Mogul. African fair play. Farafina Bolota, America will in the coina. Baby, now what is it? No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Votre rendez-vous traditionnel consacré à la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Les huitièmes de finale ont permis à certaines équipes de se qualifier pour les quarts de finale. Les derniers qualifiés seront connus ce soir à l'issue du match qui se déroule en ce moment entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et puis ce soir, vous le savez, la Tunisie qui tentera de signer sa première victoire. La Tunisie face au Ghana. Pour l'équipe du Maroc, c'est fini, tout comme l'Égypte ou encore le Cameroun. Par contre, l'Algérie poursuit son petit bonhomme de chemin. Au cours de cette édition, eh bien, nous irons en Égypte pour retrouver Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain. Et puis avec nous dans les studios, notre ami Khalid Fouhami, ancien gardien, actuellement responsable des sélections. Vous le savez, Khalid Fouhami nous accompagne sur nos émissions à la radio et à la télé. C'est Khalid, bonsoir.
Bonsoir Hakim.
Bonsoir Khalid également. Notre ami Ilham à la réalisation de cette édition et toute l'équipe qui nous accompagne. Bien entendu, on parlait des matchs de ce soir et le Mali face à la Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, ce sera la Tunisie face à la sélection ghanéenne. Avant de revenir sur l'équipe du Maroc, ce qui s'est passé ces derniers jours, bien sûr, pour les autres sélections, en parlant du Mali et de la Tunisie. En 2004, Khalid, vous étiez avec l'équipe marocaine, Badou Zaki en tant que sélectionneur, cette équipe qui avait atteint la finale, une finale perdue face au pays organisateur, la Tunisie et le Mali. La Tunisie en finale, le Mali en demi-finale, un score large. Qu'est-ce que ça vous rappelle ?
Que de très bons souvenirs. C'était un match quand même compliqué parce que je me souviens très bien, juste avant la compétition, on avait fait un match amical contre les Maliens qui nous ont battus à Casablanca 1-0. Et après, ça crée beaucoup de, quand même, de remous, beaucoup de problèmes à la presse, qu'ils ont parlé que l'équipe n'était pas encore prête, que peut-être qu'on va aller jouer les trois premiers matchs et après on va rentrer chez nous. Mais pendant ce match, déjà, on avait fait un très bon commencement de la Coupe d'Afrique. On avait battu le Nigeria au premier match, le fameux match contre l'Algérie. Et après, on a joué quand même le Mali, mais le Mali était favori quand même sur ce match-là parce qu'ils avaient des joueurs extraordinaires, ils avaient une génération dorée. Mais ce match-là, on était efficace, mais surtout les coups qu'on a joués à fond, on était efficace. On a marqué les coups francs, qui rentre à la fin, qui marque quatrième but, et où ils ont eu un paquet d'occasions. Mais heureusement, on était là, on était bien derrière avec Naïbet, les Talal Al-Kharkhori, Weddou, et au milieu aussi, ça cravachait beaucoup avec l'Esfri et Ressi. Donc, on était une équipe quand même qui était bien en bloc, bien en place, et c'est ce qui nous a facilité la tâche, mais croyez-moi, c'était pas évident.
Le Mali, bien sûr, et vous le disiez, qui avait dominé par moment cette équipe marocaine, mais à l'arrivée, ça fait 4-0. Avant cela, il y avait ce fameux match entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc s'acheminait vers une élimination, même s'il avait une bonne équipe, plusieurs occasions. Le Maroc était mené au score. Les dernières minutes avant le temps additionnel, vous sauvez l'équipe d'une très belle parade, et dans la foulée, eh bien, il y a cette égalisation après la prolongation, on s'en souvient, et l'équipe du Maroc avait inscrit deux buts. La finale, c'est toujours, ça revient souvent de temps en temps, Khalid.
Oui, on en parle, mais je regardais le match parce qu'on a ce match-là, on a fait un non-match, on n'a pas été bon. Sauf un quart d'heure après qu'on a marqué le but égalisateur, là on a pris le dessus, mais après le début du match, il était un peu mauvais de notre part parce que les Tunisiens, ils ont eu pas moins de trois occasions franches, et après on prend un but qui était à mon sens mérité parce qu'ils ont vraiment bien joué le coup, ils ont bien profité. On jouait avec trois défenseurs centraux, donc eux, ils ont Ils ont mis des joueurs très rapides devant et ils ont utilisé les côtés avec les montées de Santos et aussi les joueurs brésiliens Clayton. Donc ils ont bien étudié notre façon de jouer. Et après la deuxième mi-temps, malheureusement, on égalise. C'était bien, c'est juste avant la fin de la première mi-temps, mais malheureusement, on encaisse ce but de 1 qui a vraiment coupé nos jambes parce qu'après, ils sont restés derrière, bien solides sur leur base. Il avait des joueurs pour venir ne faire peur sur les contres. Donc voilà, sur ce match-là, c'est vrai que sur la compétition, on était la meilleure équipe, mais sur ce match-là, je crois qu'on n'a pas été, on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas été nous-mêmes. Et c'est, je crois que, parce que je le dis, je le redis, on manque quand même cette culture de la victoire. Parce que normalement, après la demi-finale, on s'est emballé quand même, tout le monde était content. Et vous savez, on est des êtres humains, quand on est content, on se relâche et il y a un manque de concentration, on l'a payé cash en finale.
Mais justement, l'équipe du Maroc est partie, on va dire, sur la pointe des pieds, et vous le disiez, et à l'arrivée, elle se trouve en finale. En parlant de la Tunisie et du Mali, le Mali qui a failli surprendre la Côte d'Ivoire sur une attaque menée par Marika, l'attaquant qui évolue au Portugal. On va revenir sur l'élimination parce que les huitièmes de finale ont été marqués par quelques surprises quand même. La sortie du pays organisateur, l'Égypte, l'élimination du Cameroun. C'est vrai que c'était face au Nigeria. C'est l'un des plus beaux matchs de cette compétition pour l'instant. Et puis il y a également la sortie de l'équipe du Maroc face au Bénin. Avant d'appeler Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, est-ce que c'est digéré cette élimination? Pas encore, Khalid?
Ouais, ça va laisser ses traces, c'est clair. Parce qu'on espérait beaucoup mieux de cette équipe parce qu'il arrivait à maturité après avoir disputé la CAN au Gabon avec quand même une prestation accompli parce qu'on n'avait plus atteint les deuxième tour, donc c'était le minimum syndical. On l'a eu. Après, on a été en Coupe du Monde avec de très bons matchs, avec un contenu quand même intéressant. Et on attendait que c'est la bonne, quoi. C'est l'équipe allait au moins arriver en demi-finale, mais en fin de compte, il nous a manqué beaucoup de choses. Il nous a manqué surtout l'efficacité parce que les occasions, on les a eues et énormément, même un pénalty, on l'a manqué. Donc, c'est difficile à digérer, mais il faut aller de l'avant. Maintenant, il faut tirer les conclusions, ce que ça a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour aller de l'avant. C'est le football et il faut continuer, il faut persévérer, il faut travailler la base et la formation. Et voilà, c'est à la fin, sûr et certain, on va être récompensé. C'est vrai que maintenant, on a le bonheur d'avoir des joueurs qui sont formés en Europe. Et c'est ceux qui font la colonne vertébrale de l'équipe nationale, mais il faut penser chez nous quand même, on a majorité des jeunes qui ont moins de 15 ans, donc une grosse question qui se pose, comment on peut pas au Maroc former de bons joueurs qui seront capables de défendre les couleurs nationales et pourquoi pas s'exporter en Europe. Donc c'est ça la grosse question qu'il faut se poser aujourd'hui.
Voilà, il y a la sortie de l'équipe du Maroc. Avant d'appeler Hervé Penaud, 13 minutes de jeu dans ce derby entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Une première impression, Khalid?
L'équipe de Mali est bien en place, ils sont bien, ils défendent très bien et en plus ils ont l'espace.
Il y a beaucoup d'espace.
Ils ont l'espace dans le dos de l'équipe adverse avec ce diable de Marega qui est quand même un joueur très puissant. Et peut-être que si les Ivoiriens ils ne vont pas être réalistes et savoir bien défendre et bien couper les transitions quand l'équipe perd le ballon, je crois que les Maliens peuvent faire mal à cette équipe quand même valeureuse ivoirienne qui ont de très bons joueurs et c'est vrai qu'ils ont perdu contre nous, mais on se souvient du scénario de match. Ils ont eu la plus grosse occasion au début de match, ils l'avaient marqué, peut-être que le score aurait été autre. Donc je crois que c'est un match disputé. On ne peut pas dire dès maintenant quelle équipe qui va gagner parce que les deux équipes, ils ont des arguments.
Voilà, le Mali qui a terminé leader de son groupe devant la Tunisie, la Mauritanie et l'Angola, alors que la Côte d'Ivoire a terminé deuxième derrière le Maroc et devant l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud déjà qualifiée pour les quarts de finale après une victoire face à l'Égypte. On va y revenir dans un instant avec Hervé Penaud. Mais d'abord, Hervé, la sortie, cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois, Hervé, que vous nous disiez que l'équipe du Maroc faisait partie des favoris. Bien entendu, il y a les résultats, le parcours, l'expérience de l'entraîneur, de certains joueurs, mais à l'arrivée, une élimination qui fait couler beaucoup d'encre, surtout face à un adversaire qui n'a jamais battu le Maroc. Je parle du Bénin. Bonsoir, bonjour Hervé.
Bonjour à qui, bonjour à tous. Eh ben oui, une grosse déception, j'imagine, du côté marocain, car on s'attendait pas à cet échec, et échec majeur de la sélection, éliminé par une équipe du Bénin, qui est quand même pas une grande équipe, hein, faut pas se mentir, à qui manquait son meilleur joueur, quasiment, hein, Steve Mounier, et puis un match où tout a été raté. Hein. Alors, il y avait largement de quoi passer, à 11 contre 10 dans la prolongation, et puis surtout, c'est aussi l'échec d'un joueur comme Hakim Ziyech, qui est la star de l'équipe et qui s'est rendu compte qu'une CAN c'était très compliqué, surtout à la fin d'une saison, et ça malheureusement on ne s'en rend pas tellement compte, mais une saison comme il a connu, à un moment ça pèse sur les organismes. Pourtant il avait beaucoup de bonne volonté, je l'ai vu travailler, faire des efforts, mais il a tout raté. On pense au pénalty, on pense évidemment à cette dernière occasion à la dernière minute, et puis une défaite au tir au but. Pour Hervé Renard c'est aussi un échec, hein, parce que lui il comptait absolument gagner cette CAN 2019. Les Lions sont rentrés avec beaucoup de regrets, hein, j'imagine, avec la sensation qu'ils ne sont pas allés au bout d'eux-mêmes, parce qu'il y a des joueurs qui méritaient beaucoup plus dans cette génération. Je pense au Boussoufa, qui a été encore énorme. El Hamadi, qui est vraiment un cadre de ces années-là. Maintenant, il va falloir reconstruire, j'allais dire, enfin, en tout cas, construire sur ce qui a été fait déjà, parce qu'il y a eu quand même des bonnes choses de faites. Malheureusement, il a manqué le match qu'il ne fallait pas perdre, et ce match qu'il ne fallait pas perdre, c'était contre le Bénin, et avec tout ce qu'il y avait derrière, avec la possibilité certainement de pouvoir aller très loin, parce que je pense que contre le Sénégal, ça aurait été tout autrement.
Voilà, justement, le Sénégal qui, on le sait, fait partie des favoris malgré une défaite face à la sélection algérienne lors de la phase de poule, mais ensuite il s'est qualifié. On va tout à l'heure, dans la deuxième partie, évoquer le Sénégal avec cette décision de Sadio Mané, la star de l'équipe, le joueur de Liverpool, sacré champion d'Europe avec le club anglais, qui a décidé de ne plus tirer les pénaltys. On va écouter, il y a une sortie ratée du gardien ivoirien Khalid sur cette action.
Un mauvais timing, je crois que c'est pas le bon moment de l'impulsion. Il a été un peu en retard, donc il est arrivé un peu tard et il a pas bien mis ses doigts quand même pour pouvoir capter le ballon. Je crois qu'il était un peu quand même nonchalant sur cette prise parce qu'il n'était pas, il y avait pas personne qui était à côté pour le charger, donc il était un peu nonchalant.
Juste une alerte pour la sélection ivoirienne après cette sortie ratée du gardien de la Côte d'Ivoire, toujours 0-0, 17 minutes. J'évoquais tout à l'heure, bien entendu, les sélections qualifiées et éliminées. On va revenir sur le Sénégal dans un instant, mais on reste avec Hervé pour évoquer cette sortie, deux sorties d'ailleurs, du tenant du titre, le Cameroun, et également le pays organisateur. Je parle de l'Égypte, Hervé.
Ah, l'Égypte, on s'attendait certainement pas à un tel échec, hein, parce que les Égyptiens étaient les favoris, il faut le dire, de la compétition. À partir du moment où vous l'organisez, vous avez 75 000 personnes derrière vous dans le stade. Et puis, comme Ziyech, dont je parlais précédemment, pas dans le coup. Et puis, comme ce n'était pas une équipe exceptionnelle, ils sont tombés contre des Sud-Africains qui, eux, n'étaient pas exceptionnels non plus. Ils sont sortis des poules à l'arrache. Donc, la CAN des surprises, ça, c'est la plus grosse surprise, avec évidemment le Bénin de cette CAN, mais encore un peu plus parce que c'était le pays organisateur. Les Camerounais, on s'y attendait un peu plus. Je trouvais ça très faible depuis le début de la compétition. Un Seedorf, il fait un peu n'importe quoi, qui change ses joueurs tout le temps, qui change ses systèmes tout le temps. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous pensez pas que ça les trouble un petit peu? Et m'a répondu, je ne crois pas au système, je crois à la philosophie. Et la philosophie, c'est que le Cameroun est rentré à la maison et que dans 2 ans, il y aura une méga pression au moment d'organiser la future CAN.
Le Cameroun qui devait organiser cette édition en 2019, on le sait, mais la CAF a décidé donc de retirer l'organisation au Cameroun et de charger l'Égypte de cette édition. L'Égypte et le Cameroun qui ont donc été éliminés, tout comme le Maroc. Avant de revenir sur l'équipe du Madagascar, un petit mot sur ce qu'on voit en ce moment, Khalid, et également un petit mot quand même sur l'Égypte et l'équipe du Cameroun. C'est vrai que ce sont des poids lourds, 5 titres pour le Cameroun, 7 pour l'Égypte, mais n'empêche, on a vu lors du premier tour, ces deux sélections n'ont pas vraiment convaincu.
Vraiment, c'est pour l'Égypte, leur meilleur joueur, c'était le gardien, ça veut dire beaucoup de choses. Chaque match, le gardien a sorti des parades miraculeuses et aussi les attaquants des équipes adverses n'étaient pas très précis. Donc, c'était déjà une alerte parce que l'équipe n'était pas convaincante. Il arrivait à marquer, à gagner, mais sur le contenu, ils étaient quand même écrasés, ils étaient dominés par les adversaires. Donc, chose qu'on n'a pas rectifiée sur le match contre l'Afrique du Sud, qu'il faut d'ailleurs leur rendre hommage parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Ils étaient bien agressifs. Ils ont fait un pressing tout terrain. Il attendait avec impatience le bon moment pour aller en contre. Ils l'ont fait pas mal de fois avant de marquer et à la fin, ils ont eu la réussite de marquer. Donc, ce n'est pas une victoire volée. Je crois que l'Afrique du Sud a mérité sa victoire et l'Égypte, malgré l'apport de Mohamed Salah et aussi Nini, ils n'ont pas démontré grand-chose. Donc, c'était une victoire logique vu le contenu du match des Sud-Africains. Pour les Camerounais, sur le contenu, c'est une équipe quand même qui joue au ballon, je crois, à la hollandaise, mais il laisse beaucoup d'espace et on l'a vu sur le troisième but, sur une transition. Il y avait beaucoup d'espace contre les défenseurs et les joueurs nigériens ne se sont pas fait prier pour marquer les buts. Et on connaît la qualité quand même des joueurs nigérians comme Igalo qui a marqué deux buts avec beaucoup de précision, technicité et aussi le joueur, je crois, d'Arsenal, Ayoubi, qui a vraiment bien placé et s'est pas fait impressionner par le défenseur adverse. Donc, je crois que le Cameroun, c'est vrai, il y a beaucoup d'améliorations sur la façon de jouer, mais il laisse beaucoup d'espace et avec des équipes qui sont très fortes et très rapides et très techniques, quand même, ça a fait des dégâts.
Quand on voit, bien sûr, ça c'était pour l'Égypte et le Cameroun, quand on voit les 20 premières minutes de ce match entre le Mali et la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire devait passer en quart de finale et affronter l'Algérie, je pense qu'ils vont faire les Algériens vont faire beaucoup de mal à cette équipe côte ivoirienne parce qu'il y a énormément d'espace, et également d'erreurs de relance, des pertes de balles, du déchet
oui,
dans le jeu.
C'est vrai, les Maliens aussi, ils
ratent
sont en
beaucoup.
confiance, et ils vont aller sans problème avec Marega qui, quand même, a un point d'ancrage parce qu'il arrive à prendre le ballon, à dévier, à jouer en de touche. Et aussi, les joueurs, ils pressent, ils sont vraiment en confiance et ils ne sont pas impressionnés par cette équipe ivoirienne et pour les Ivoiriens, je crois qu'ils devront hausser leur niveau de jeu s'ils vont vraiment s'en sortir sur ce match-là.
On rappellera que la Côte d'Ivoire, qui avait gagné l'édition 2015, avait été éliminée dès le premier tour lors de la dernière édition au Gabon dans un groupe où il y avait le Maroc et le Togo notamment. Et on a vu Pépé, l'attaquant de Rennes, qui est sollicité par plusieurs équipes. Pour l'instant, on attend le réveil du meilleur buteur, en tout cas espoir dans le championnat de France, et il l'a confirmé. Rennes, vous le savez, a réussi un très beau parcours en Europa League. On revient vers Hervé en Égypte. Bien sûr, Hervé, on a évoqué le Maroc, le Cameroun et la sélection égyptienne. Mais avant de parler de, peut-être ça sera dans la deuxième partie de l'après-match, de l'Algérie, eh bien, on parle du Madagascar. Parce que lorsque Madagascar s'était qualifiée, elle était dans le groupe, cette équipe était dans le groupe du Sénégal, avait terminé deuxième. C'était déjà historique, puisque c'était la première fois. Ensuite, lorsque Madagascar a battu le Nigeria, c'était un événement. Et puis, le Madagascar a terminé en tête de sa poule et surtout a battu la RDC. Juste entre parenthèses, on ouvre une parenthèse pour dire que certains joueurs de la République démocratique du Congo ont dénoncé l'arbitrage. C'est Nordine Al-Jafari, l'arbitre marocain, qui a dirigé cette rencontre. Il dénonce un deuxième but en position de hors-jeu. Là, sur les répétitions, il n'y a aucune position de hors-jeu. Il réclame également un pénalty dans un contact vers la fin de la rencontre. Peut-être y avait-il pénalty, mais en tout cas, c'était pas flagrant. À l'arrivée, ça fait 3-2. Avant de retrouver Hervé Penaud, Khalid Fouhami, cette équipe de Madagascar, c'est la révélation. C'est comme chaque fois, quand il y a un championnat d'Europe, une Coupe du Monde, il y a la belle histoire. Et là, c'est Madagascar qui est en train d'écrire cette belle histoire de cette CAN.
C'est vrai, c'est la belle révélation et ça explique tout. C'est-à-dire que même si on a des joueurs de très haut niveau qui jouent au championnat européen, c'est pas une garantie de faire une bonne compétition et avoir les résultats souhaités. Là, c'est une équipe quand même novice, c'est pour la première fois qu'il se qualifie. Il arrive à faire un grand coup quand même, à battre quand même le Nigeria. Et maintenant, ils ont fait quand même un match égal avec le RDC, voire mieux. Donc, tout est possible pour cette équipe parce que surtout, c'est une équipe jeune qui est en train de découvrir le haut niveau et surtout sans pression. Et joue sans pression, ça peut aussi jouer un facteur favorable à l'équipe qui joue sans pression. Ils ont tout à gagner, donc c'est tranquille. On l'a vu aussi sur les tirs au but, les joueurs ils étaient relâchés, en confiance, et ils ont mis le ballon là où ils voulaient, donc ils sont relâchés. Et c'est une très bonne chose aussi pour ce pays-là, que surtout les jeunes qui sont en train de regarder, ça va leur donner quand même une source d'inspiration, ça va les pousser aussi peut-être à l'avenir de choisir le métier de footballeur. Et donc c'est tout bénéfique pour le Madagascar.
Justement, Hervé Penaud va nous raconter l'histoire de certains joueurs joueur, du sélectionneur aussi, un Français. Mais on rappellera avant cela que Madagascar était dans le groupe du Burundi, du Nigeria et de la Guinée. Invaincu, de victoire et un match nul. Et puis cette victoire hier face à la RDC. Hervé, c'est la belle histoire de cette édition.
Madagascar, c'est vraiment la belle histoire. Quart de finale, Madagascar de finale, effectivement. Exceptionnel, magnifique. C'est un peu l'histoire, l'aventure inattendue. Hein. Alors, il faut mettre au centre du débat, il y a bien sûr l'entraîneur, hein, Nicolas Dupuis, un Français, qui a été récupéré par Hamad, et en 2017, qui avait regardé un petit peu tout ce qu'il fallait faire, et puis il s'était donné 6 mois pour essayer de changer les structures de Madagascar. Mais surtout le capitaine Faneva, qui lui a décidé de rameuter tous les gens qui étaient d'origine malgache, donc il est des Réunionnais, parce que souvent il y a des Malgaches qui sont partis à la Réunion, donc Et c'est comme ça qu'ils ont créé cette équipe, cet état d'esprit. Et lui, ce Faneva est au cœur hein, du projet. Il faut vraiment le mettre en avant. Et avec l'entraîneur qui lui a demandé des conseils. Et puis voilà, on a cette aventure absolument incroyable d'une équipe qui n'avait jamais rien fait avant. Alors une équipe nouvelle, hein, puisque ce sont beaucoup de joueurs qui sont venus au dernier moment. Et même Jérémy Morel qui a été rattrapé juste après la qualification. Donc c'est un truc énorme. Et Dupuis, ce Dupuis qu'on ne connaissait pas, qui entraîne aussi à Fleury, qui a pris Fleury en France, une petite équipe qu'il a réussi à sauver dans son championnat National 2. C'est une histoire vraiment incroyable, comme on en connaît peu. Un peuple qui souffre, on le sait, et qui a été récompensé. Il paraît que c'était la folie là-bas. Franchement, pour l'instant, c'est le coup de cœur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, moi, mon coup de cœur, c'est quand même, je vous dis, ce joueur, encore plus que l'entraîneur, qui a vraiment tout fait pour amener son équipe à ce niveau-là. Il a 35 ans, c'est sa dernière aventure, sa dernière bataille. Mais vraiment, il a un sourire, ça vous donne envie de le suivre.
Voilà, Hervé, vous restez avec nous. La deuxième partie, on va évoquer le Sénégal et également le Sénégal, surtout l'Algérie. L'Algérie qui a réussi un parcours jusqu'à présent parfait. 4 matchs, 4 victoires, 9 buts encaissés, 9 buts inscrits, 0 encaissés. L'équipe qui monte en puissance avec Jamel Belmadi, on le sait, la sélection algérienne qui a traversé une période difficile ces derniers temps depuis le Mondial 2014. Les résultats n'étaient pas à la hauteur. 2015 n'avait pas réussi à se qualifier pour la CAN et lors de la dernière édition, l'Algérie a été éliminée dès le premier tour. Nous allons parler également du Sénégal avec notre confrère de la radio-télévision sénégalaise, Ibrahima Diop. Cette décision de Sadio et également la sélection sénégalaise et ses chances face au Bénin parce que, vous le savez, si le Maroc était passé, eh bien, il devait affronter la sélection sénégalaise. Il nous reste, on va dire, 45 secondes juste pour conclure cette première partie. Et bien entendu, c'est le match Guinée-Côte d'Ivoire-Mali plutôt. La Guinée, le Ghana et la Tunisie, ça sera tout à l'heure. Rapidement, Khalid, c'est quand même un match plaisant malgré le 0-0 après 28 minutes de jeu.
Oui, il y a deux équipes joueuses, deux équipes qui veulent aller de l'avant et pourquoi pas marquer des buts. Donc, et en plus, ils sont très bien sur le plan technique. On voit des joueurs ils n'ont pas de problème avec le ballon. Il arrive à bien contrôler, à jouer une touche, deux touches, et c'est plaisant à voir. Mais avantage quand même aux Maliens qui sont vraiment agressifs sur le porteur du ballon. Et avec le ballon, ils vont de l'avant, ils essaient de donner des passes verticales vers Mariga surtout. Entre les lignes aussi, il y a des joueurs qui décrochent, il arrive à avoir le ballon et se retourner. Donc je crois pour l'instant, c'est le Mali qui quand même est beaucoup mieux que les Ivoiriens. Mais attendons la deuxième mi-temps, mais peut-être que les Ivoiriens vont monter en puissance.
Ce qui est sûr, c'est qu'on voit une autre compétition. On a l'impression que la Coupe d'Afrique des Nations vient de commencer. Merci Khalid pour cette première partie. Ilham à la réalisation. On se retrouve dans quelques instants. La deuxième partie de l'après-match, vous le savez, consacrée comme toutes les émissions de lundi au dimanche, 17-18h, pour parler Coupe d'Afrique des Nations. Khalid Fouhami qui nous accompagne au cours de cette émission. Khalid, rebonsoir. Et également Ilham à la réalisation et toute l'équipe. Le match qu'on suit en ce moment, le Mali face à la Côte d'Ivoire, la suite des huitièmes de finale. On rappellera que des équipes comme le Nigeria, comme Madagascar, comme l'Algérie se sont qualifiées, sans oublier le Bénin, bien sûr. Et en ce moment, une demi-heure de jeu, plus 37 minutes de jeu, le Mali et la Côte d'Ivoire, toujours 0-0. Un match engagé des deux équipes d'ailleurs, avec une légère domination, un léger avantage aux Maliens, même s'ils n'ont pas réussi à transformer les occasions qui se sont créées. On a parlé dans la première partie des éliminations du Maroc, de l'Égypte, du Cameroun. On a parlé également de la sélection du Madagascar, la révélation, qui pour sa première participation se retrouve aujourd'hui en quart de finale. Une autre équipe qui a fait forte impression et qui monte en puissance, c'est la sélection algérienne. 4 matchs, 4 victoires et une attaque qui a inscrit 9 buts, 0 but encaissé. L'équipe qui a fait très fort une première impression après ces 4 match de la sélection algérienne, Khalid.
Très bonne, en confiance surtout, et tous les compartiments fonctionnent à merveille. Je crois que le mérite revient largement à l'entraîneur, parce que l'Algérie n'a jamais manqué de bons joueurs. Et là, il a trouvé l'alchimie, il a trouvé le bon système, et il a trouvé aussi la bonne, il a mis la bonne ambiance entre les joueurs, parce qu'on voit quand même des joueurs comme Brahimi qui est quand même un joueur de haut niveau et qui s'assoit sur le banc et qui est content, et qui encourage ses coéquipiers qui sont sur le terrain. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'est une équipe qui monte en puissance, qui est en confiance, pourvu que ça dure, parce que vous l'avez dit, que à peine la Coupe d'Afrique vient de commencer avec des matchs couperés qui sont quand même compliqués. Donc l'Algérie est sur la bonne voie, mais gare, il faut rester les pieds sur terre, il faut rester concentré, motivé et déterminé pour pouvoir aller au bout.
La sélection algérienne qui va affronter le vainqueur de ce match qui se déroule en ce moment. Beaucoup d'engagement, Khalid, entre Malia et
Ivoiria. Oui, beaucoup d'engagement. Il y a du tout. Il y a du football. Il y a le ballon qui circule quand même à 1000 à l'heure. Il y a des joueurs très techniques. Il y a beaucoup d'engagement. Et donc, c'est un match plaisant. C'est un vrai match de Coupe d'Afrique.
Voilà. Donc, 39 minutes de jeu 0-0. On revient en Égypte pour retrouver Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain. Et on a parlé avec Hervé du Maroc, du Sénégal, plutôt de l'Égypte, du Cameroun, du Madagascar, mais la sélection algérienne, c'est aussi la belle révélation et la belle surprise de ce tournoi pour l'instant, Hervé.
Aujourd'hui, sans conteste, il y a une équipe qui semble se dégager, c'est l'Algérie. On en avait déjà parlé ces derniers temps, je vous disais que c'était vraiment ceux qui donnaient la meilleure impression, et pour l'instant, ils n'ont pas chuté dans les matchs où les autres ont chuté, c'est-à-dire ces matchs où on se dit, c'est relativement facile, preuve, état d'esprit remarquable, un travail aussi de l'entraîneur qu'il faut mettre en valeur, puisqu'il a réussi à faire travailler ses joueurs de manière très collective, avec cette volonté de jamais rien lâcher, ce qui n'a pas toujours été le cas des générations précédentes, pourtant avec du talent. Donc là, il y a à la fois talent, maîtrise tactique, maîtrise technique, rigueur, c'est vraiment quand même ce qui peut permettre à l'équipe de rêver en grand, d'aller beaucoup plus loin et aller très loin. Évidemment, les gens se mettent à rêver en Algérie de remporter cette CAN. En tout cas, ils en ont largement le potentiel. Maintenant, vu ce qui s'est passé jusqu'à présent, j'attendrai un petit peu avant d'en dire plus. Mais il n'empêche aussi, aujourd'hui, il fallait mettre une pièce sur une équipe. C'est évidemment l'Algérie qui se dégagerait.
Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain pour l'avant-match et également les matchs qui vont se dérouler, puisque les quarts de finale arrivent à grands pas, parce que, vous le savez, il y a des équipes qui se sont déjà qualifiées. Vendredi déjà, le Bénin s'était qualifié aux dépens de la sélection marocaine. En ce qui concerne ce match qu'on suit en ce moment entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est bientôt la fin de la première période, toujours 0-1-0. On parlait tout à l'heure de cette décision de Sadio Mané, l'attaquant vedette du Sénégal, le joueur de Liverpool, qui a décidé de ne plus tirer les pénaltys de la sélection sénégalaise. Avant de retrouver, c'est une autre action du Mali que les Maliens, les Aigles, vont peut-être regretter. C'est parce que Lorsqu'on commence à rater pas mal d'occasions, Khalid, comme ça, surtout c'est le haut niveau et c'est la porte au quart de finale quand même.
Mais justement, ils ont eu une occasion claire par Marega sur un débordement d'un joueur malien et voilà, il rate à bout portant. Donc c'est mauvais signe parce qu'on le sait, on l'a expérimenté avec l'équipe du Maroc, on a eu beaucoup d'occasions, on les a pas mis à fond et à la fin, on est sorti brodu. Donc j'espère que les Maliens ne vont pas commettre cette erreur parce que je crois qu'il y aura des temps forts aussi pour les Ivoiriens. Rien. Maintenant, c'est le temps fort pour les Maliens. Ils n'arrivent pas à profiter. Et donc, ça va être compliqué s'ils continuent à gaspiller des occasions pareilles.
Voilà, le Mali, pour rappel, avait terminé en tête de son groupe devant la Tunisie, notamment la Tunisie qui joue ce soir face au Ghana. Retour donc à cette histoire du Sénégal. Avant de vous donner la parole, Khalid, on écoute Ibrahima Diop. C'est un journaliste, un confrère de la radio-télévision sénégalaise. Et pour lui, c'est une bonne chose parce que les statistiques de Sadio Mané ne sont pas bonnes.
Je pense que Sadio Mané a pris une bonne décision de ne plus tirer les pénalties de l'équipe du Sénégal. Ce n'est pas un exercice dans lequel il excelle. C'est vrai que c'est la star de l'équipe, c'est le leader technique, c'est le joueur le plus décisif et le plus influent. Mais sur les pénalties, il n'est pas bon, ça se voit. Il a la pression à chaque fois qu'il tire un pénalty et ça se voit sur son visage. Je pense que ça a été une sage décision de sa part. Maintenant, le coach avait dit qu'il allait discuter avec lui pour après choisir les meilleurs tireurs. Je pense que quelqu'un comme Henry CV doit être le premier tireur du Sénégal sur les pénaltys. Ensuite, d'autres joueurs comme Baïnian, comme Pop Alundiaï, Ismaël Sarr sont également bons sur les pénaltys. Parce que dans le foot moderne, les pénaltys constituent une action de but. Et Sadio Mané en a raté deux cette CAN et un face au Cameroun en 2017. Trois pénaltys manqués en deux éditions de CAN. Cela veut dire que le joueur n'est pas à l'aise avec cet exercice-là. Et on salue sa décision.
Brahima Diop, vous restez avec nous. Bien sûr, on le disait, les chiffres de Sadio Mané ne sont pas bons pour la transformation, mais n'empêche, c'est un excellent attaquant. C'est quelqu'un qui a connu une ascension fulgurante avec, bien sûr, la France, l'Autriche, Salzbourg, et ensuite l'Angleterre, avant de porter les couleurs de Liverpool et ce titre de champion d'Europe face à Tottenham. Après avoir perdu la saison dernière, c'était face au Real Madrid. Avant de revenir chez notre ami Ibrahima Diop pour parler du prochain match du Sénégal face au Bénin. Khalid, en tant qu'ancien gardien et également entraîneur des gardiens, est-ce qu'on peut imaginer le tireur anticipé sur la posture, sur le bassin, sur la course quand on est gardien?
Oui, c'est compliqué quand même, mais il y a quand même, comme on dit, body language des joueurs. Maintenant, on apprend au gardien de savoir anticiper. Et aussi, il y a les statistiques, parce que normalement, un entraîneur ou un entraîneur des gardiens, il doit quand même donner ses statistiques au gardien pour lui dire, voilà, tel joueur, le frappeur, il a frappé tant de pénalty, tant sur le côté gauche et tant sur le côté droit. Pour quand même lui donner quand même des statistiques qui peuvent l'aider, mais ça reste aussi, c'est l'intuition sur le moment. Et comme j'ai dit aussi, le body language des joueurs, c'est pas évident, mais quand même, ça donne beaucoup plus de confiance au gardien pour affronter l'attaquant. Et on sait que dans l'exercice de pénalty, c'est l'attaquant qui a beaucoup de pression. Le gardien, c'est la seule action au match qui n'a pas de pression, aucune pression. Il a tout à gagner. Donc, ça joue quand même sur le côté mental, parce que les gardiens essaient d'influer le joueur. Donc, des fois, ça porte ses fruits.
Juste une phrase prononcée par Fabien Barthez, l'ancien gardien de l'équipe de France, champion du monde en 1998, champion d'Europe deux ans plus tard. Juste à signaler que c'est la fin de la première période entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Huitième de finale, la suite, le score est toujours de 0-0. On y revient dans un instant. Mais cette phrase de Fabien Barthez, donc, qui disait que ce n'est pas le gardien, mais c'est surtout la balle qui est mal tirée.
Je suis d'accord parce que même si on a la bonne intuition de partir sur le bon côté, c'est la frappe, elle est bien mise avec beaucoup de force. On n'a pas le temps d'arriver à temps pour dévier le ballon. Donc, c'est vrai, je partage son opinion. C'est surtout le joueur qui rate le pénalty.
C'est surtout 7m32 avec 2,44. C'est énorme. Et pourtant, quand on a un tir au but, eh bien, on a l'impression que les buts sont tout petits, alors que pour un gardien, les buts sont grands.
Oui, c'est clair. Et en plus, maintenant, avec le changement des lois de football, le gardien, il n'a pas le droit de bouger de sa ligne avant de la frappe. Donc, avant, il y avait certains gardiens qui prenaient quand même, qui réduisaient un peu plus l'angle. Maintenant, on n'a aucune chance. Il faut rester sur place et après s'allonger et pousser sur sa jambe d'appui. Et même avec ça, si le ballon est bien frappé, on n'a aucune chance. Mais et surtout, c'est sur le plan mental que cet exercice est compliqué parce que, oui, on a beau travailler à l'entraînement, mais ce n'est pas les mêmes conditions qu'en match. Match, il y a l'enjeu, il y a la pression et tout ça. Et ce qui fait que beaucoup de joueurs, même le joueur en équipe nationale, n'ont pas pu réussir cet exercice. Donc, quand même, c'est compliqué pour les joueurs, beaucoup plus que pour les gardiens.
Justement, on l'a vu en ce qui concerne la sélection marocaine avec ce pénalty raté par Hakim Ziyech à la 94e minute face au Bénin. L'épreuve des tirs au but, les ratés de Nsaïri, qui a quand même marqué deux buts lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Boufal, qui est lorsqu'il est entré, il a apporté un plus, donc il était en confiance, mais malheureusement, on va remonter même lors des matchs amicaux, on a vu Faisal Fajr, qui est un spécialiste aussi, qui a raté un pénalty, c'était face à la Gambie. Donc voilà pour cette histoire de pénalty, tir au but. On revient vers Ibrahima Diop, notre confrère de la radio et télé sénégalaise. Le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale avant le début de la compétition, on le sait, les Lions de la Teranga, qui avaient déjà réussi une très bonne Coupe du Monde, même s'il y avait cette élimination dès le premier tour, eh bien, ça sera face au Bénin. Et là aussi, c'est le match piège parce que le Bénin est là. Sans pression, par contre, le Sénégal se doit de se qualifier, Ibrahima.
Sur le papier, les Lions sont naturellement favoris. Mais attention au Bénin qui fait partie des petits poussés, l'une des plus belles surprises de cette CAN. Le Bénin a résisté face au Ghana, face au Cameroun, a éliminé le Maroc. C'est une équipe qui va arriver au stade des quarts de finale avec plein de confiance. Moi, je pense que c'est au Lion du Sénégal d'être prudent et de tout faire pour décrocher la qualif pour les demi-finales. Ça sera un match serré à mon avis parce que l'équipe béninoise a tendance à faire un bloc bas, à rester derrière et attendre son adversaire. Je pense que le Sénégal doit être réaliste, concrétiser les occasions qu'elle va se procurer tout au long de la partie. Je m'attends également à un match physique, vu la prestance des joueurs béninois qui sont très athlétiques. Et dans l'ensemble, je pense que ça sera un quart de finale âprement disputé. Ce sera le premier match entre Béninoises et Sénégalais en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations.
Ibrahima Diop, notre confrère de la radio-télévision sénégalaise, merci beaucoup et bon courage. Sénégal-Bénin, ce sera l'une des rencontres des quarts de finale. Vous le savez, le Bénin avait sorti l'équipe du Maroc à l'issue de l'épreuve des tirs au but pour le premier match des huitièmes de finale. On en a parlé également tout à l'heure dans la première partie. C'était l'une des surprises avec la sortie de l'Égypte, le pays organisateur, et également le Cameroun. Il nous reste deux petites minutes. C'est la mi-temps pour ce match Mali et également Côte d'Ivoire. On va parler rapidement de cette rencontre et puis le match de ce soir entre la Tunisie, qui n'a pas vraiment rassuré ses supporters, contre le Ghana ce soir. Rapidement, Mali, Mauritanie, Khalid.
Je crains que les Maliens, ils ont passé leur période forte, quoi. Ils ont eu beaucoup d'occasions et ils ont été dominants, agressifs et ils se sont quand même, ils ont vendangé beaucoup d'occasions. Ils ont été présents dès les 16 mètres à 50 de l'équipe adverse. Et les Ivoiriens, ils n'ont pas eu quasiment d'occasions franches. Donc, pourvu que ça continue comme ça, parce que c'est vraiment un match plaisant, mais les Ivoiriens devront quand même hausser leur niveau du jeu parce que c'est vraiment inquiétant avec les joueurs qu'ils ont quand même de qualité à l'image de Pepe, qui a fait une très grande saison en France, mais malheureusement, durant cette CAN, il n'a pas encore confirmé tous les biens et qu'on dise de lui en Europe et les clubs qui courent après pour le faire signer.
Voilà, donc pour ce match Mali-Côte d'Ivoire, 0-0. L'autre rencontre au programme aujourd'hui, ce soir, eh bien, ça sera Tunisie. Ghana, c'est une affiche intéressante entre anciens champions d'Afrique, mais l'image et la copie rendue par la Tunisie, 3 matchs nuls, 3 points seulement, est-ce qu'on peut s'attendre à un réveil des Aigles de Carthage?
Oui, je crois que c'est leur... ils ont une chance quand même de retourner l'opinion publique tunisienne, parce qu'ils étaient très très moyens, voire faibles, durant la première phase de la Coupe d'Afrique. Maintenant, ils ont quand même un gros morceau devant eux qui sont le Ghana, avec ces deux joueurs Ayo, les fils de Abidi Pelé qui jouent en Angleterre. Ça ne va pas être une mince affaire, mais c'est jouable. Donc aux Tunisiens de vraiment mettre le bleu de chauffe pour pouvoir renforcer l'opinion publique et pourquoi pas créer la surprise qui ne va pas être quand même facile, parce qu'on sait les Ghanais ont beaucoup de talent et beaucoup d'expérience.
Voilà, Ghana, Tunisie ce soir. Avant cela, eh bien, à la première mi-temps, Côte d'Ivoire, Mali 0-0. Merci beaucoup Khalid Fouhami.
Merci à vous.
Merci Ilham à la réalisation, à nos auditeurs et toute l'équipe. Excellent début de soirée à l'écoute de Média.
I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. Tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. And I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, we were such a mess. But wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never. It's never...